Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser cette semaine autour de l'inconscient européen. L'inconscient européen, c'est à la fois la question des spectres qui hantent l'Europe aujourd'hui. Tout le monde le sent, tout le monde le ressent. Mais c'est aussi la question des mots, des idées, des savoirs pour affronter ces spectres. Est-ce que la notion d'inconscient elle-même est encore pertinente pour affronter tout ce qui fait retour aujourd'hui, tout ce qui intervient dans l'histoire de l'Europe? Y a-t-il un inconscient proprement européen? Et quelles sont les notions qui permettent de penser l'inconscient et l'Europe aujourd'hui pour nous? L'inconscient européen, notre première rencontre aujourd'hui avec Laurence Kahn, psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France, qui vient de publier, notamment, entre autres publications récentes, un livre intitulé « Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse ». Bonsoir Laurence Kahn.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir. Je dis que vous venez de publier ce livre, « Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse ». Simultanément, reparaît dans une nouvelle édition un livre d'entretien que vous avez fait avec Michel Hénaudeau, qui reparaissent aux belles lettres, après une des premières éditions en 2004, si je ne me trompe pas, avec une dernière section qui a été rajoutée et qui paraît donc à peu près en même temps que le livre sur le nazisme, et une dernière section qui reprend évidemment les questions que vous traitez dans ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2018, à la fois dans ce livre et dans ce retour sur votre œuvre, sur votre réflexion d'ensemble sur la psychanalyse, qu'est-ce qui fait la place du nazisme? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, vous avez besoin de remonter à cette expérience de l'Europe du XXe siècle, à la fois dans votre pratique de psychanalyste et dans votre réflexion sur l'actualité, j'allais dire aussi?
En fait, si je, pour répondre à votre question, je pourrais presque prendre le développement du travail de manière chronologique.
De votre travail?
De mon travail, absolument. C'est-à-dire que, à certains égards, ce que le nazisme a fait à la psychanalyse est comme une préface au psychanalyste apathique et le patient postmoderne.
Alors, le psychanalyste apathique et le patient postmoderne, c'est un livre d'il y a quelques années.
Deux, trois ans. Oui.
Et au fond, c'est déjà en effet un travail sur des thèmes très proches, mais ce que vous dites, c'est que finalement, c'est dans le tout dernier livre sur le nazisme que vous retrouvez le sens des précédents, que vous accédez à la question peut-être qui les ouvre tous.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par beaucoup travailler sur ce qu'était devenu la métapsychologie freudienne sous le coup de cette grande inflation de la notion de trauma en psychanalyse et, conjointement, la grande inflation de la notion d'empathie comme outil thérapeutique, avec quand même une déperdition au niveau de l'outil de pensée de l'analyste absolument considérable. Ça, c'était dans les années, 2008, quelque chose comme ça. Je dis ça très approximativement. Puis, j'ai commencé, donc ça, c'était à propos du nazisme, c'est-à-dire tout ce qui s'était passé dans l'immédiate après-guerre.
Alors, c'était déjà à propos du nazisme au tout début des années 2000. Vous faisiez déjà le diagnostic qui est le vôtre, que c'est l'expérience du nazisme, à la fois avant la guerre et pendant la guerre, on va y revenir, qui a comme effet, finalement, de décentrer, c'est un autre mot qui a failli me venir dans la bouche, déporter la psychanalyse vers certaines de ces notions, mais qui ont envahi tout le territoire, comme le trauma et l'empathie. C'est le nazisme qui a fait ce déplacement. Vous le saviez déjà, vous aviez déjà ce diagnostic?
Non. Ça s'est fait très, très progressivement. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans cette littérature américaine très particulière, qui, grosso modo, est contemporaine des réparations allemandes. Et à ce moment-là, au fond, je n'avais pas de vision.
Vous ne faisiez pas encore le lien entre ces deux choses-là.
Exactement. À ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur l'empathie, sur l'extraordinaire dérive, disons, de la psychanalyse américaine, avec en poche quand même, entre autres, Adorno, qui a été un sérieux guide.
Alors on reviendra sur l'usage que vous faites d'Adorno, de quelques autres qui vous aident dans cette résistance à ce que vous diagnostiquez comme un problème, j'allais presque dire une pathologie de la psychanalyse, c'est-à-dire, et, mais ce qui m'intéresse tout de suite, c'est, au fond, vous partez d'un diagnostic sur votre discipline, j'allais dire, sur votre pratique et votre et la théorie qui l'accompagne, sur la psychanalyse, c'est de là que vous partez. C'est ensuite que vous faites le lien et que vous dites, ce qui se passe en psychanalyse, qui vous pose un problème, en fait, vient de cette expérience historique-là, très précisément.
Oui, exactement. Et avec cette idée, peut-être que c'est ça, la vraie voie d'entrée, cette idée que l'empathie, l'expansion de l'empathie est associée à une espèce de théorie de la pathologie identitaire. Et à un moment donné, je me dis, mais cette affaire de pathologie identitaire, elle nous vient quand même de quelque chose qui n'est pas abordé en tant que tel, qui est le traitement de la question de l'identité par le nazisme. Et ce lien-là est un lien qui, à partir du moment où je mets la main dessus, m'amène à reprendre la totalité du dossier et à penser ce que peut être l'inconscient de notre propre pratique lorsque on voit cette question identitaire envahir le champ en toute bonne foi.
Qu'est-ce que vous appelez la question identitaire, Laurence Kahn ? Est-ce que c'est doute immédiatement politique ? Est-ce que c'est l'assignation à une identité, quelle qu'elle soit, qui peut venir du champ politique ? Ou est-ce que c'est une conception du sujet, du rapport à soi et le centrage de la psychanalyse sur l'identité personnelle d'une façon plus générale ? Est-ce que cela, l'empathie en psychanalyse, tout ça, c'est comme des symptômes dans la psyché en général et dans la psychanalyse qui s'en occupe de quelque chose que progressivement vous avez connecté au nazisme. Mais qu'est-ce que vous appelez vraiment qu'est-ce que vous entendez par identitaire ici ?
Un discours très publiquement soutenu, à savoir que les pathologies de nos patients se seraient modifiées et que nous aurions maintenant affaire principalement non plus à des hystériques graves, non plus à des obsessionnels graves, non plus à des patients éventuellement caractérielle, etc. Non, la majorité des patients seraient maintenant des cas que la psychanalyse n'aurait pas traités antérieurement, auxquels elle ne se serait pas affrontée, c'est-à-dire des pathologies identitaires.
Des troubles de l'identité,
des finalement. Troubles de l'identité. Et alors là, derrière, il y a tout ce qui s'est glissé dans le champ analytique sous la forme de la théorie de la self-psychologie de Cohut, tout ce qui s'est glissé via Roy Scheffer, au fond, vous employez le terme de subjectivité, au fond, à travers la narration comme pivot de l'organisation identitaire, donc là aussi une modification très très importante de la conception même de la cure. Donc ça, c'est un de mes points de départ.
Ce qui est très important dans ce que vous dites, Laurence Kahn, à mon avis, c'est qu'au fond, vous partez d'un diagnostic qui n'est jamais seulement sur un état clinique des sujets d'aujourd'hui, disons, des patients d'aujourd'hui, mais aussi sur l'état du discours qui en parle. Et vous partez de ça, et vous le soutenez très fortement jusqu'au bout, c'est-à-dire la psychanalyse, et on parle ici d'inconscient européen, la psychanalyse n'est jamais seulement définie par son objet, mais par un savoir, par une théorisation de ce qu'elle constate chez les sujets. Et ce que vous critiquez, c'est presque, est-ce que j'ai raison si je dis c'est un degré zéro de la théorie psychanalytique, avec donc ces troubles de l'identité, cette réduction de l'inconscient peut-être à cette dimension, cette réduction de la psychanalyse à une empathie pour réparer ça, ça vous paraît quand même un gros problème, un indice d'un problème de fond.
C'est un énorme problème.
Un symptôme.
Mais je ne dirais pas que c'est un degré zéro de la théorie
analytique. C'est moi qui l'ai dit.
Oui, absolument. Et pas moi.
Parce que vous pensez que c'est pas un degré zéro, c'est juste une fausse théorie.
Et je pense que, je ne sais pas si elle est fausse ou vraie,
ouais.
Je pense simplement qu'elle lâche les outils qui nous permettraient de comprendre, qui nous auraient permis de comprendre, au fond, ce qu'il est advenu dans l'après-guerre de 39-45. Étant entendu qu'en réalité, il faut compter constamment avec et de guerre. C'est-à-dire que l'effondrement de la Aufklärung pour Freud s'opère dans la Première Guerre mondiale, que finalement la réflexion sur les processus de destructivité à l'intérieur de la culture vienne dans l'entre-deux-guerres, et que, somme toute, lui meurt donc en 39, et somme toute, passer un tout premier temps de l'immédiate après-guerre, où un certain nombre d'analystes émigrés d'Allemagne, d'Autriche vers les États-Unis reprennent en charge cet héritage, il y a une espèce de grand silence qui s'installe et on voit à la fois apparaître tout ce langage du traumatisme extrême, ce qui fait que les survivants sont entendus à partir de la définition d'un traumatisme qui vient, qui est défini du dehors, en quelque sorte, par les faits historiques, et pas du tout de l'intérieur, selon une théorie du traumatisme, ce qui fait qu'on ne comprend pas du tout, finalement, comment les survivants ont survécu. C'est-à-dire qu'on les prive intégralement, avec un modèle très très simplifié, des effets du traumatisme, c'est-à-dire un appareil psychique arasé, pas de système de refoulement, pas de souvenirs écrans qui ont permis de relancer libidinalement ces personnes qui ont quand même vécu, vraiment, tout à fait vécu. On n'a plus les moyens de le comprendre.
Ce que vous dites là aussi me paraît très, très précis, Laurence Kahn, c'est l'idée que vous n'êtes pas finalement contre la notion de traumatisme, on va y revenir, on va discuter de votre analyse du traumatisme, mais là ce que vous venez de dire est très précis, c'est-à-dire que la psychanalyse ne consiste pas à prendre une notion dans une expérience extérieure au sujet, parler des violences de la Seconde Guerre mondiale, des violences extrêmes dont on sait que certains humains les ont subies, mais d'abord à voir comment ils les expriment, et même s'ils n'arrivent plus à les exprimer, comment ils n'y arrivent même plus, et là la psychanalyse consiste à élaborer cette expérience depuis ce qui en est dit par les sujets eux-mêmes, ou depuis même ce qu'ils n'arrivent plus à en dire, mais pas de l'extérieur. Est-ce que c'est cela que la violence même de l'événement a presque empêché après la Seconde Guerre mondiale, et on plaquerait du dehors des catégories au lieu d'écouter ce qui peut encore s'en dire?
Mais ce qui est très très curieux, c'est que la violence de l'événement ne frappe absolument pas seulement les survivants, qui reviennent.
Bien sûr.
La violence de l'événement.
C'est la moindre des choses. Heureusement, en un sens.
La violence de l'événement a frappé l'ensemble de cette société occidentale. D'une certaine façon, les survivants qui ont parlé ont à peu près tous dit que on ne pouvait pas les entendre. On ne pouvait tout simplement pas les écouter.
Et dans ce on, il y aurait aussi les psychanalystes, Laurence Kahn.
Alors là, c'est pour la France, puisque on ne peut prendre comme point de repère que la France très en détail. Il n'y a pas de grands textes dans l'après-guerre portant sur cette question-là. Au fond, que font les Français? Ils sont extraordinairement passionnés par le retour à Freud de Lacan, que tout ça a lieu aux alentours de 50-53, donc dans l'immédiate après-guerre, et que Lacan règle la question de l'extermination avec une certaine désinvolture.
Vous citez les textes où il, à sa manière, qui est en fait assez profonde si on creuse, mais qui peut paraître désinvolte, il parle de la petite moustache, l'homme à la petite moustache, et il dit la fixation sur cette moustache.
L'identification
à la petite moustache.
À propos du trait unaire, exactement.
C'est sans doute très profond si on creuse, mais sur le moment, ça peut paraître disproportionné.
Oui. Je pense que l'autre chose qui est très problématique, c'est qu'il puisse parler d'Holocauste, et il n'en parle pas une fois. C'est-à-dire qu'il en parle en termes de sacrifice, et qu'on ne peut pas ne pas se demander, mais sacrifice, pourquoi? Pour quel Dieu? Qui est le sacrificateur? Qui sont véritablement les victimes? Et je pense que la chose la plus grave n'est même pas à cet endroit-là, c'est dans la manière, en tout cas pour moi c'est un immense point d'interrogation, c'est dans la manière dont, au fond, il démonte l'ego psychology en disant Freud a essayé de traiter cette affaire de la psychologie des masses jusque dans Malaise, et dans cette après-guerre, finalement, la communauté, alors laquelle? Est-ce que c'est la communauté juive? Est-ce que c'est la communauté des analystes? La communauté s'est emparée de ça en érigeant l'analyste en position d'idéal. Alors que l'idéal, quand même, c'est ce qui fait flamber la question du Führer en Allemagne.
Si je reprends ce que vous venez de dire, là aussi, il y a une sorte de piège de l'après-guerre, c'est-à-dire au fond on a l'impression que ce que vous venez de rappeler de Jacques Lacan, qui critique une psychanalyse américaine qui vise à reconstituer le moi, l'ego, le sujet, peut-être hanté justement par sa destruction, par le trauma. Cette critique vient finalement prendre la place de l'écoute de ces sujets eux-mêmes brisés par le traumatisme. Et au fond, la critique d'une certaine psychanalyse fait qu'on n'arrive plus à écouter. Entre ceux qui peut-être réduisent la psychanalyse à cette reconstruction d'un sujet et ceux qui la critiquent, où passe l'écoute de ces sujets brisés, ce qui permettrait de reconstruire une théorie à partir de l'épreuve subjective. Et finalement, pourquoi a-t-il fallu attendre, je dirais presque aujourd'hui, avec votre travail et quelques autres, pour se replacer dans ce que la psychanalyse aurait à dire vraiment? Non seulement des victimes d'ailleurs, mais des coupables, parce que vous parlez beaucoup aussi, vous dites aussi ce qui a été occulté à cause de l'insistance sur le trauma des victimes, c'est l'analyse de la culpabilité des coupables.
De tout le monde, et des silencieux.
Et des bystanders, comme disent les historiens, des spectateurs
exactement.
Silencieux,
exactement.
Qui avaient aussi une psyché.
Mais qui avaient aussi un appareil psychique, et on se demande où il l'avait mis.
Mais on ne se l'est pas beaucoup demandé, justement.
On ne se l'est pas beaucoup demandé, exactement.
C'est votre question aujourd'hui, c'est de se demander
maintenant. Pour moi, c'est une véritable question. Alors oui, c'est très compliqué l'histoire, la position de Lacan, parce qu'effectivement... au fond, Lacan rend un service à la psychanalyse absolument gigantesque et on lui doit vraiment énormément.
En insistant sur une rigueur théorique
En relisant Freud, en ne lâchant absolument rien du tremblement que représente la prise en compte de l'inconscient. Ce qu'on a appelé le retour à Freud, c'est quand même cette affaire-là. Et là, au moment où effectivement l'ego psychology est en train de recadrer tout ça autour d'un moi autonome. Alors, raconter en 1958 ou en 1960 le moi autonome avec sa libido propre, effectivement, c'est très, très, très suspect. Mais ce qui est complètement ignoré à ce moment-là, c'est dans quelles conditions, au fond, Hartmann est amené à commencer à élaborer les prémices de cette ego psychology dans l'avant-guerre, c'est-à-dire dans les années 33, 35, 38, puisqu'il émigre en 38, il est autrichien, il émigre en 38.
Mais alors, encore une fois, c'est maintenant, depuis votre diagnostic, que c'est le nazisme, l'épreuve du génocide, pour être précis, qui aurait inconsciemment, justement, produit ce déplacement, fait qu'on se centre sur la reconstitution du moi, on oublie même l'inconscient lui-même. Maintenant, on réalise que ce retour à l'inconscient, ce retour à la psychanalyse doit quand même affronter le traumatisme. Au fond, Lacan, ce retour à la rigueur de la psychanalyse a quand même masqué aussi cet ébranlement de la Seconde Guerre mondiale, cet ébranlement du nazisme. Ce que vous essayez de faire aujourd'hui, c'est penser l'ébranlement du nazisme sans renoncer à la psychanalyse.
Voilà, c'est exactement ça.
Et pourquoi est-ce que c'est seulement aujourd'hui, Laurence Kahn? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité de l'Europe aujourd'hui qui vous pousse aussi à ça? Alors, on va revenir sur ce que vous en tirez, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, peut-être, il y a un ébranlement qu'on doit penser, parce qu'il pourrait se reproduire, et on a besoin de le comprendre. Et pour ça, on a besoin de la psychanalyse.
Oui, il y a évidemment l'idée qu'il y a la menace de la répétition. Que dans la psychanalyse relativement bien-pensante qui lutte contre l'autoritarisme, on a... Je pense à la psychanalyse américaine. Au fond, on a complètement lâché toute cette dimension extrêmement compliquée du lien entre les idéaux et la haine meurtrière qui seule peut permettre de comprendre ce qui s'est passé dans cette période-là. Cela dit...
Donc la psychologie des meurtriers, finalement.
Ah, c'est pas exactement ça. Parce que je pense que... C'est la psychologie de tout le monde.
De tout le monde.
C'est la question, vraiment.
Mais qui, chez les assassins et disons, chez ceux qui commettent ce qui produit le trauma, se libère massivement, politiquement, culturellement, socialement.
Oui, mais quand une...
Dans certaines conditions.
Oui, mais c'est ça. Mais le grand problème, quand même, c'est que quand une nation entière, ô combien cultivée, d'un seul coup... peut se laisser complètement prendre par ce que finalement Freud nomme une psychose de masse, que Velder nomme aussi une psychose de masse. L'énigme, il n'y a pas que les assassins, là.
Bien sûr.
L'énigme est...
Où tout le monde est un peu assassin.
Et où tout le monde est un peu assassin. La force de Kertész, c'est quand même de dire « arrêtez de penser que ce sont les autres ». la question de la contre-culture nazie, c'est tout de même que c'est chacun de nous. On ne peut pas se délester de cette affaire-là en pensant que le bourreau, c'est l'homme qui tenait le couteau. C'est d'ailleurs exactement la position de Adorno dans un échange avec Benjamin, où Benjamin l'interroge et l'un et l'autre se disent mutuellement, tout le problème c'est comment c'est-il qu'ils arrivent à trouver des exécutants. Les exécutants, au fond, c'est la masse, c'est la masse de la population.
Alors, ce comment se fait-il, c'est votre question, Laurence Kahn, dans votre livre, quand même, ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, qui fait qu'on, la psychanalyse doit maintenant faire quelque chose au nazisme, tenter de le comprendre en retour. Pour cela, vous convoquez des théoriciens, vous citez Théodore Adorno, vous convoquez des écrivains, Imre Kertész, le grand romancier hongrois qui a eu le prix Nobel avec ses grands livres sur, j'ai même pas dire son expérience, mais qui a affronté cette question de l'expérience d'Auschwitz, on va y revenir. Ce sont des théoriciens qui ont en commun de maintenir l'exigence de compréhension et qui pour cela brisent un peu leur langage. Et vous parlez aussi dans leur sillage de la musique. Vous nous avez proposé un morceau d'un musicien dont Adorno a beaucoup parlé, dont Imre Kertész s'inspire, qui brise le langage musical pour comprendre ce qui s'est brisé dans l'histoire du XXe siècle.
How I got underground to live in the sewers of Warsaw so long a time. The day began as usual. Réveille, when it still was dark. Get out, whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep?
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, notre première rencontre sur l'inconscient européen, toujours avec Laurence Kahn, psychanalyste, auteur d'un livre qui vient de sortir, Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. Laurence Kahn, vous venez de nous faire partager un morceau particulièrement intense de l'oratorio de Schoenberg de 1948, Le survivant de Varsovie, qui se termine, enfin ce passage, par ce cri « How could I sleep ?»« Comment ai-je pu dormir ?» Est-ce que c'est la bonne traduction ? Je ne sais pas. C'est un oratorio qui mêle plusieurs langues. Dans cette musique, c'est pas seulement ce qui vous intéresse dans cette musique, Laurence Kahn, comme dans la psychanalyse et la littérature et la philosophie, c'est pas seulement l'objet, l'hommage à ces survivants, c'est la manière de leur rendre hommage, c'est le fait de pouvoir encore créer une œuvre musicale qui soit à la hauteur, qui ne trahisse pas son objet, un peu comme certains romans contre d'autres, certaines théories psychanalytiques contre d'autres, y parviennent. C'est votre exigence.
Oui, le cri, c'est « Comment pouvais-tu dormir ?»«
Comment pouvais-tu dormir ?»«
Comment pouvais-tu dormir ?»
Sous-entendu pendant ce temps-là ?
Voilà, exactement. Et pendant que les Allemands étaient en train de rentrer, qu'ils s'en prenaient aux vieillards, qu'ils les battaient, qu'ils allaient les tuer, et qu'ensuite ils allaient compter combien de déportés allaient être envoyés à, je crois que c'est Treblinka. Donc, oui, comme...
Dans le ghetto de Varsovie, là, en l'occurrence.
Voilà, exactement. Et ce cri, comment pouvais-tu dormir? C'est un cri qu'on pourrait s'adresser à nous-mêmes.
Que Schoenberg, sans doute, prend aussi à son compte. Il était exactement. En Californie, avec quelques exilés, pas loin d'Adorno, de Thomas Mann, une partie de l'intelligentsia allemande.
Oui, enfin, lui, il ne dormait pas parce qu'il s'était arrêté de composer Moïse et Aaron. Et au fond, pour s'adonner entièrement à la création de programmes de sauvegarde des Juifs qui étaient bloqués en Europe. Donc,
ça
l'empêchait de dormir, comme Thomas Mann. Hein, ils avaient quand même... Et Adorno ne dormait pas très tranquillement non plus. Donc, ils étaient tous absolument sur le qui-vive. Mais ce que je pense, c'est que nous, ce cri s'adresse à nous. Comment est-ce que tu peux dormir en ce moment? La question, elle se pose de ce point de vue-là. L'intrication du politique et de la clinique est absolument, à mes yeux, essentielle.
Oui, parce que cet empêchement de dormir, la psychanalyse, évidemment, le prend très au sérieux, Laurence Kahn.
Ah ben, cet empêchement de dormir, si on ne se réveille pas maintenant pour essayer de saisir ce qui, à chaque fois qu'un corps hétérogène, à chaque fois que la société rencontre un conflit dont la seule solution qui lui apparaît est l'expulsion d'un corps hétérogène, et que des lois sont fabriquées pour garantir la légalité de l'expulsion de ce corps hétérogène, alors oui, on est dans une situation extrêmement grave. Et c'est là qu'on a intérêt à se réveiller.
Et se réveiller, pour vous, Laurence Kahn, psychanalyste, c'est justement montrer que ces pratiques ne doivent pas seulement nous terrifier, nous pétrifier, nous sidérer, mais qu'il faut tenter de les comprendre et qu'on peut encore les comprendre. Votre livre, « Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse », analyse, je dirais, en deux temps. Vous me direz si j'ai raison. Je pense qu'il y a deux grands mouvements dans votre livre. Il y a un premier mouvement sur l'entre-deux-guerres, où on voit le nazisme finalement emprunter, détourner les mots de la psychanalyse, les mots pulsion, les mots de la vie, les mots de la force, les mots de la violence, les mots du sexe aussi, en un certain sens. Et puis, après la guerre, cet écrasement sur la victime et sur le trauma qui est un autre effet de la psychanalyse qui fait que celle-ci, alors qu'elle a les outils, d'après vous, finalement, pour comprendre ce déferlement de... Alors, est-ce que c'est la haine? C'est une des notions que vous reprenez. Vous reprenez tous les mots de la psychanalyse au fil de cette épreuve du nazisme. La psychanalyse a les moyens de comprendre ce déferlement que vous décrivez. Elle a les moyens de répondre à notre réveil, pas seulement de nous empêcher de dormir, mais de nous éveiller complètement.
Oui, alors, bon, pour ce que vous dites de ce plan, finalement, en
c'est
deux
bien,
parties...
C'est bien, c'est deux grands mouvements.
C'est deux grands mouvements, absolument, dans le livre, je suis entièrement d'accord.
Avec le chapitre au cœur, à la charnière des deux, le chapitre sur le trauma, dont je cite le titre, « Trauma extrême, de point quel inconscient, point d'interrogation ». Et vous dites que même la notion d'inconscient a failli être écrasée par celle de trauma.
Oui, absolument. Absolument.
Parce que l'inconscient subjectif, l'inconscient que je dis subjectif un peu vite, c'est quand même justement, il est toujours là et c'est la prise qu'on doit prendre sur l'événement pour y résister.
Et puis surtout, c'est l'endroit où peuvent s'opérer les transformations, les déplacements, les reprises, les après-coups. C'est ce qui fait une vie psychique vivante. Et une vie psychique vivante, c'est quand même c'est-à-dire qui tolère le conflit. Qui est en mesure d'élaborer le conflit, c'est quand même la condition pour pouvoir résister à l'emportement. Alors, je voudrais juste préciser une chose qui me paraît quand même très très importante, c'est qu'au fond, dans ce temps qui précède l'extermination, c'est-à-dire la montée du nazisme, bon, d'une part, effectivement, quand on lit Mein Kampf en allemand, on est médusé par le fait qu'il y a des pans entiers du langage qui sont le langage du démonique, quelque chose qui vient directement du romantisme, que le nazisme s'approprie, et ça Thomas Mann...
Et avec certaines notions de Freud, malgré tout, les pulsions, sous ce langage de la vie, du vivant,
absolument.
Que Freud a utilisé, mais d'une manière bien précise, rigoureuse et au fond théorique, alors que Hitler, finalement, en fait, un usage qui va les rendre inutilisables, les déformer radicalement.
Les déformer radicalement, mais n'empêche que quand il emploie, par exemple, la notion de pulsion d'autoconservation, qui est absolument le terme freudien, on voit comment il le déplace concrètement de quelque chose qui était un espace intra-psychique pour Freud, à quelque chose qui devient concrètement le Lebensraum, c'est-à-dire un espace de survie dont de plus, on constate que ça n'est justement pas un espace, puisqu'il n'a d'autre territoire que le territoire illimité du sang, c'est-à-dire de l'identité par le sang.
Au fond, il fait, vous le montrez très bien dans votre livre, Laurence Kahn, il fait une conjonction, Hitler, très brutale, violente, mais aussi efficace, entre son inconscient personnel, au fond, qui s'exprime sans inhibition, je dirais, et puis, tout à coup, la volonté d'un peuple, le monde extérieur, la politique dans sa radicalité, cette conjonction brutale qui ne permet plus aucune médiation et qui produit cette efficacité redoutable que Freud avait comprise malgré tout.
Que Freud avait absolument compris très longtemps.
Il avait vu comment ça allait tout à coup passer d'un sujet individuel à une foule, à une masse, comme dit aussi Elias Canetti, cette masse qui va s'engouffrer dans cette brèche.
Absolument. Dans Psychologie des masses, et quand même c'est un texte qui vient bien bien avant, hein, Psychologie des masses, c'est 1921, c'est un an avant l'assassinat de Rathenau, mais quand même c'est dans l'immédiate après-guerre, et là il est dans l'effroi de l'expérience de 14-18, c'est-à-dire des masses. Lui ne s'exclut pas de cela.
Freud, voulez-vous dire là?
Oui,
on parle de Freud.
Freud ne s'exclut pas de cela. Des masses qui, d'un seul coup, alors qu'elles étaient intégrées dans des internationales extraordinairement riches culturellement, à commencer par l'international psychanalytique, se laissent embarquer dans un nationalisme tout à fait stupéfiant. Et il y a des pages dans Considération actuelle sur la guerre et sur la mort qui sont bouleversantes.
1919, je crois.
Pleine guerre, 1915. Il écrit ça en 1915, ses fils sont au front. Il n'est absolument pas sûr de les revoir, absolument, comme que ce soit en Allemagne ou en France,
c'est
pareil.
Comme tous les parents d'Europe à ce moment-là.
C'est ça, exactement. Et il dit, mais que se passe-t-il quand d'un seul coup, je vibre au moment où il y a une victoire allemande? Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là?
Ce qui est sidérant dans tout ce premier mouvement de votre livre, Laurence Kahn, et je vous ai interrompu au moment où vous alliez citer une phrase de Thomas Mann qui perçoit cela, c'est cette sorte de course de vitesse, pardon, du raccourci entre Hitler et Freud, c'est-à-dire au moment où l'un subit le traumatisme de la Première Guerre mondiale et va entraîner celui de la Seconde, l'autre cherche à les comprendre. Et on a l'impression que Freud comprend et théorise ce qui est en train de se produire au moment où Hitler les passe à l'acte. Donc
oui.
Tout ce que Freud est en train de comprendre, Hitler est en train dramatiquement de le réaliser.
Absolument. 1921, 1922, 1923, et Mein Kampf est écrit en 23-24.
Et il y a une sorte de contemporanéité tragique. Vous citez Thomas Mann. Est-ce que vous pouvez rappeler cette phrase extraordinaire et le sens que vous lui donnez, Laurence Kahn?
Au moment où il dit de Hitler qu'il devait détester...
Qu'il allait envahir une certaine capitale pour un certain savant.
Un certain vieil homme, le grand désillusionneur.
Ce qui veut dire que pour Thomas Mann, quand Hitler veut annexer l'Autriche, c'est pour s'en prendre à Freud.
C'est-à-dire s'en prendre à une forme de la conscience la plus profonde concernant l'illusion que représente un mouvement de masse.
Comme si Freud détenait la vérité sur Hitler et qu'Hitler, finalement, c'est peut-être l'interprétation de Thomas Mann, mais en tout cas, ce combat serait la clé de cet entre-deux-guerres.
Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la vérité, mais c'est parce que je pense que c'est un terme qui est trop compliqué.
Mais il est important malgré tout.
Il est assez important.
Il est quand même important.
Mais je pense que Thomas Mann voit dans Freud une autre version du destin culturel de l'Allemagne où le romantisme est un véritable héritage. Nietzsche est un véritable héritage et finalement Freud vient s'inscrire dans cette succession de penseurs allemands en se tenant tout le temps sur la ligne de crête entre la prise en compte des forces obscures et un langage rationnel autour de l'illusion.
Mais est-ce qu'il y a même ambivalence chez Freud, Laurence Kahn? Est-ce que depuis le début Freud ne cherche pas justement à montrer des forces obscures pour y résister? Pour y résister par la science, qui voit les forces obscures surgir aussi chez des patients, qui cherchent à comprendre ce qui se passe, qui le fait, et puis y résister par la culture et par la loi, par les institutions.
Dit comme ça, oui.
Il n'y a jamais eu ambivalence, au sens où il a, quand il dit par exemple qu'un enfant veut tuer son père, le complexe d'Oedipe, il dit c'est justement parce qu'on reconnaît ce désir qu'on peut s'y opposer.
Oui,
Le meurtre n'a pas lieu.
C'est vrai, mais en même temps, quand il parle de force démonique, et qui fait directement référence, alors là pour le coup, à la tragédie d'Oedipe et au daimon dans la tragédie d'Oedipe, c'est-à-dire là on voit bien comment derrière c'est le sens le plus noble du démonique et du daimon dont Freud se sert en tout cas tout à fait au début, et puis ensuite ça change de couleur, hein.
Alors, Laurence Kahn, j'ai dit aussi que vous essayez de montrer comment la théorie analytique est très importante. Je vais tout de suite prendre un exemple très précis. Vous cherchez à montrer quand même les outils que donne la psychanalyse pour comprendre non seulement le traumatisme des victimes, mais le défoulement des meurtriers. Et par exemple, vous dites, pour embrayer sur ce que vous venez de dire, que la violence ici ne s'explique pas seulement par l'écroulement de la loi, sur lequel vous ouvrez malgré tout votre livre, mais aussi sur on a besoin pour le comprendre aussi des concepts de narcissisme, c'est aussi tous ces concepts de psychanalyse sont nécessaires pour comprendre la violence meurtrière, celle du nazisme, celle qui menace de nouveau aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi on a besoin de préciser nos concepts, comment c'est essentiel pour ne pas sombrer dans la sidération?
Ah, parce que si on réitère simplement la plainte que l'histoire se répète, je veux dire, à part un grand retour, je sais pas, j'ai envie de dire à Thucydide, hein, l'histoire se répète, on n'a pas avancé d'un pas. Alors là, c'est assez votre question est énorme là.
Bien sûr.
Parce que je vais résumer.
Voilà.
Pourquoi elle est énorme? Elle est énorme parce que...
C'est déjà pas mal qu'on comprenne qu'elle soit énorme et...
Absolument.
Renvoyons les auditeurs et tout le monde à son dépliement.
Absolument. Parce que, au fond, ce qui se passe dans ce que m'ont fait comprendre les juristes et ce qui m'a permis de faire la jonction avec un certain nombre de concepts analytiques, c'est comment quelque chose de l'identité du Blut und Boden, c'est-à-dire du sang et du sol, était en appui sur une vraie loi, mais une loi concrète. C'est-à-dire une loi qui allait constamment détruire la notion de société, la transformer en notion de communauté, et puis finalement la transformer en notion de suite.
Ce que l'historien Johann Chapoutot a résumé en opposant la loi du sang des nazis à la loi de l'encre.
Absolument.
La loi
c'est
du combat
Exactement.
Vital supposé contre la loi de la raison et de l'universel.
Et que Jouan Jean a remarquablement développé dans Justifier l'injustifiable.
Alors, Laurence Kahn, vous citez ces grands historiens qui nous montrent le nazisme comme culture. Vous citez aussi Imre Kertész, grand romancier, auteur d'essais majeurs dans l'Holocauste comme culture. Ce qui me frappe, c'est que vous faites partie donc de ce mouvement qui cherche aujourd'hui à comprendre et qui pourrait nous donner les outils pour résister. Vous n'êtes pas toute seule, vous appuyez sur ces écrivains, sur ces historiens, sur d'autres psychanalystes.
Sur d'autres psychanalystes.
Et est-ce que vous êtes finalement là aussi dans une course de vitesse? Vous voyez l'Europe peut-être menacée par des nouveaux dangers? Vous voyez aussi un corpus de savoir, peut-être des nouvelles lumières qui cherchent à les affronter? Est-ce que vous avez confiance dans le savoir contemporain, dans ces œuvres pour résister aujourd'hui?
Oui, tout à fait, absolument. Mais il me semble que, par exemple, la position de Kertész est absolument essentielle, puisque sa notion de contre-culture nous indique qu'on ne peut pas simplement dire que c'est un terrible accident de l'histoire, mais qu'au fond, l'histoire se poursuit.
Le nazisme n'est pas un accident, mais notre environnement est devenu notre culture.
Absolument. Et que, alors là, vous parlez d'inconscient européen, tant qu'on n'aura pas fait remonter à l'intérieur même de notre conscience, que quelque chose du meurtre, de la responsabilité, de la culpabilité, sont complètement modifiés, ce que Kertész développe absolument remarquablement, on ne pourra pas toucher à cet autre pan, qui est la manière dont le narcissisme de tout un chacun est directement atteint par le fait que, justement, le meurtre et la prise en compte de la responsabilité et du meurtre nous atteint dans notre intégrité.
Et que le passage à l'acte massif historique a affecté chaque subjectivité.
Oui, mais avec cette idée de Kertész qui est tout à fait extraordinaire, qui est qu'au fond, l'homme fonctionnel est un homme qui est protégé du vertige de s'apercevoir que la destruction industrielle, mathématique de semblables, c'est-à-dire la spoliation de l'état d'humain par une partie de l'humanité à une autre partie de l'humanité, sans motif, au fond, sans motif.
Avec une sorte de, d'évidence, dit Kertész, que vous reprenez, une sorte
exactement.
De c'est naturel.
C'est naturel.
C'est devenu naturel.
Et naturel, hein, parce que c'est ce terme qui revient constamment sous la plume de Kertész. Et à un moment donné, je me suis dit, mais quel mot ? C'est pas simplement que c'est un joke, c'est pas simplement. Non, c'est. Il touche la question du bios dans la pensée nazie et il le réarticule avec cette idée de contre-culture.
Mais. Laurence Kahn, le temps passe trop vite, mais je voudrais revenir sur ce que vous retrouvez aussi chez Imre Kertész et chez ces musiciens que nous venons d'entendre, cette musique brisée de Schoenberg, cette psychanalyse qui se reconstruit aujourd'hui en admettant cette fracture. Ce que vous trouvez chez Imre Kertész, c'est aussi une écriture romanesque, c'est pas seulement cette théorisation très profonde du nazisme comme culture, c'est aussi être sans destin, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Et ce que vous y trouvez, c'est une écriture à la fois de ce monde devenu naturel. Et puis, il y a un terme sur lequel vous vous appuyez qui semble minimal, ce qui veut quand même troubler le lecteur par un certain effroi. Et pour vous, c'est finalement cette notion qui semble minimale, c'est l'effroi, pas forcément le, au-delà du trauma, s'appuyer sur cet effroi pour faire renaître l'inconscient, la subjectivité et une vie qui peut nous permettre de résister. Peut-être que je me trompe.
Non, c'est exactement ça. Bon, alors là, on est vraiment dans la question de la jonction entre la théorie analytique
et l'expérience.
Est-ce que nous apportent les romanciers?
Les cinéastes aussi, Shoah de Claude Lanzmann, que je n'ai pas cité, mais toute la culture
absolument.
Nous fournit ces éléments.
Absolument.
Dans certaines œuvres.
Mais si vous regardez le film de Silberberg, Hitler, un film d'Allemagne, vous êtes pétrifié. Complètement pétrifié.
Mais pétrifié et l'effroi, c'est pas pareil tout à fait.
Ah, c'est l'effroi.
C'est l'effroi.
Je veux dire, cette espèce d'esthétisation, le national-esthétisme, c'est quand même une sacrée entreprise. Et c'est ça que Silberberg déconstruit quand
Parce qu'il vise à nous susciter en nous cet effroi devant cela.
Absolument. Mais là où vraiment Kertész, mais je dirais aussi Thomas Mann quand même, parce que Dr Faustus est entièrement construit là-dessus.
Heureusement, il y a plus d'une ressource.
Il y a plus d'une ressource, mais ce qu'il pointe dans Moi, le bourreau, c'est la jouissance de Berg, car il s'appelle Berg, le bourreau, la jouissance de Berg au moment où il a fait renaître l'effroi qui a été le sien, pour faire connaître à ses compatriotes le plaisir pervers de faire trembler. Voilà, lui-même ayant tremblé.
Est-ce que pour vous, Laurence Kahn, s'appuyer sur l'effroi, c'est notre ressource aujourd'hui, à la fois en tant que patient, que sujet affecté, en tant que créateur, parlant, sujet capable de penser, citoyen ?
Ah mais je crois que l'effroi...
Pour repartir de l'effroi ?
Mais je crois que l'effroi nous habite tous.
Oui, mais absolument. On le méconnaît, on l'écrase.
Mais évidemment. Absolument. Et en particulier, on l'écrase dans un point très très précis, qui est que l'autorité crée l'effroi. Que d'une certaine manière, le surmoi est lui-même articulé très directement à une autorité interne qui peut totalement effrayer et qui vient évidemment de toutes les identifications précoces infantiles. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas comment les gens peuvent d'un seul coup marcher ou pas cadencer. Hein.
Mais la psychanalyse peut nous aider à le comprendre. Merci infiniment, Laurence Kahn, du courage d'affronter l'effroi.
Merci beaucoup à vous.
Matière à penser, notre première rencontre autour de l'inconscient européen avec Laurence Kahn et grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journaud, Alain Joubert. C'était Frédéric Worms qui vous donne rendez-vous demain pour un deuxième rendez-vous sur l'inconscient européen avec Geneviève Morel.